Bienvenue à tous, public, à la presse, pour ce dernier conseil de la mandature, avec comme secrétaire de séance Béatrice Mazard. Nous avons des procurations. Nous avons Monsieur Galibin pour Monsieur Albert, Madame Levaux pour Madame Favier, Monsieur Cravert pour Monsieur Cassard, Monsieur Fernandez pour Madame Moulin-Crafort et Madame Louillot pour Madame Campagne. On n'a pas eu de remarques particulières sur le... Pas de remarques écrites sur le dernier conseil. Est-ce qu'il y a des... en séance des remarques à faire une fois, deux fois? Très bien, donc on adopte le procès-verbal du dernier conseil de manière définitive. Nous avons à l'ordre du jour un point supplémentaire que je vous propose, qui est celui d'une dénomination d'une rue, ce que la Poste n'avait pas permis de conclure récemment. Il s'agit d'une délibération aux Garrigues afin de pouvoir repérer avec le GPS les secours. Voilà. Donc, avant d'ouvrir le conseil, nous avons quelques informations à vous communiquer sur ce qui est notable d'un point de vue événementiel par rapport au dernier conseil du 19 décembre. Mais une fois n'est pas coutume, je vais d'abord céder la parole à Laurent Chély, qui a quelque chose à vous dire, une bonne nouvelle, je pense, qui rejaillit sur notre commune. Laurence.
Merci, monsieur le maire. Donc, 2018, vous vous souvenez que nous avions eu le trophée d'or du tourisme adapté. Donc, fort de cette reconnaissance, nous avons souhaité aller plus loin. Et nous nous sommes lancés dans la conquête de Destination pour tous, qui est une marque d'État, qui est très, très difficile à avoir, puisqu'à ce jour, seules trois communes l'avaient en France, qui sont Bordeaux, Amiens et Ballaruc-les-Bains. Donc, nous avons travaillé sur ce dossier, en mettant en avant le territoire de Carnon comme territoire touristique, mais pas que, puisqu'il s'agit du périmètre de Carnon et de Mouviot, avec les arènes, le château, la motte, le marché, les fêtes traditionnelles, etc. Donc nous avons mis en avant les promenades guidées que nous faisons en langue des signes, Euromobility, port ouvert à tous et plages accessibles avec tir à l'eau audio-plage, la sensibilisation au handicap auprès de tout le personnel d'accueil de la mairie, les boucles à induction magnétique que nous avons installées dans tous les accueils, les documents touristiques traduits en braille et en fac, faciles à lire et à comprendre, ainsi que des projets de visite en langue des signes tactile ou sensorielle. Voilà, un travail qui a été récompensé le 20 janvier dernier, puisque nous avons été reçus par la délégation ministérielle de l'accessibilité à Paris. Nous avons fait une présentation qui a duré 2 heures devant 30 personnes et nous avons été physiquement applaudis avec les mains qui tapaient et nous avons été mis en valeur comme étant un territoire que depuis Paris on regarde parce que nous sommes moteurs sur le handicap. Voilà. Donc il s'agit du travail de plusieurs années. Je suis donc fière de vous dire que Mouviot-Carnon est la 4e ville de France à détenir la marque Destination pour tous et j'en profite pour remercier l'ensemble des services de la mairie qui ont contribué à ce travail ainsi que la politique engagée du maire Yvon Bourel et de mes collègues élus. Merci à tous.
Merci Laurence, bravo. Donc, une consécration de l'engagement qu'on avait pris en début de mandat, celui de l'inclusion, celui d'œuvrer pour que les personnes qui ont des handicaps puissent avoir une vie sur le domaine public, chez eux, bien sûr, et sur le domaine public la plus accompagnée, la mieux accompagnée possible. Et nous sommes ravis de célébrer cette réussite au bénéfice des personnes qui ont des handicaps. Deuxième élément, vous étiez nombreux le samedi 1er février à inaugurer l'espace Prévert. Donc on a eu pratiquement 300 personnes. Nous avons eu le plaisir d'accueillir le peintre Vincent Biolès qui nous fera le plaisir de ce jour d'une exposition plus large. Dans notre nouvelle galerie et bien sûr Jordi qui a immortalisé le parvis devant les arènes. Donc je remercie toutes les personnes qui sont venues et d'ailleurs beaucoup de personnes déjà sont allées au service culturel qui a ouvert ses portes sans plus tarder. Une belle réussite qui bénéficiera aux 260 associations melgoriennes. Un bonheur n'arrivant jamais seul, nous avons également eu le plaisir, la semaine dernière, de connaître une distinction relative à la gestion financière de notre commune, c'est-à-dire que nous avons eu la presse locale à relater dans un article qui faisait une page les 17 communes les mieux gérées de Languedoc-Roussillon, de l'ancien Languedoc-Roussillon. Nous partageons cet honneur avec la Grande Motte et j'en profite pour féliciter l'ensemble du conseil municipal, puisque c'est une décision d'élus et surtout ensuite une gestion qui a été faite par les services, les uns étant véritables plus que les autres, mais dans le succès, on peut embarquer tout le monde dans la gondole, puisque une gondole c'est bien, pas une galère. Et c'est vrai que je félicite les collègues, le conseil municipal, le directeur général des services, la directrice générale de finances, notre adjointe également, à qui je laisserai le soin tout à l'heure d'exprimer, pas son bonheur, puisqu'on sait qu'elle est heureuse, mais son contentement sur cet aspect des choses. Ça permet de voir que la commune est bien gérée. Et puis, dernière information que je voulais vous donner, vendredi dernier, 7 février, monsieur le préfet nous a rendu visite sur le domaine Peyre-Blanque, chez madame Jourdan, pour signer avec la Chambre d'agriculture, avec la FEDESA, avec les jeunes agriculteurs, une charte relative à la protection des biens et des personnes, une sorte d'agriculteur vigilant, pour justement lutter contre les incivilités, les chapardages, les vols qui sont faits dans les domaines, non seulement les vols qui atteignent aux cultures, mais également aux biens, au matériel. Récemment, c'est 13 ou 15 000 euros qui ont été de matériel qui ont été volés chez la famille Jourdan au mois de décembre. Donc, j'ai rappelé au monsieur le préfet qu'on avait 83 caméras sur la commune et que si l'État était disposé à nous donner un petit coup de main supplémentaire, on pourrait également inclure un dispositif, bien sûr sur le domaine public, mais des principales propriétés, justement, afin de mieux enquêter avec notre CPU qui a déjà fait ses preuves. Voilà, donc une initiative à suivre, mais qui prouve que nous avons besoin de solidarité, et pas simplement pour préserver des trésors, mais pour préserver l'ADN de notre ville. Un ADN qui s'appelle l'agriculture, qui est parfois victime de prélèvements sauvages. Voilà, suivez mon regard. Donc nous allons passer sans plus tarder à la lecture. Alors, il y a comme d'habitude les délibérations, et je vais laisser peut-être la parole. Avant, on a une petite information relative justement à la gendarmerie et police. Ce tricoire qui est en charge de cette thématique, tu le prends Laurent ? La convention de coordination des forces police municipales et des forces de sécurité de l'État. Voilà, donc je vais en dire un mot, tu compléteras Laurent.
Merci.
Donc c'est une convention de coordination qui avait été signée, qui datait de 1999 et qui n'avait pas été renouvelée. Elle avait été signée à l'époque par Madame Lazerge, qui était députée. Christine Lazerge, qui était députée de notre circonscription, et par Elisabeth Guigou, qui était ministre de la Justice et qui était venue donc ici dans notre ville pour signer cette convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. Ni plus ni moins, c'est une convention qui entérine quelque chose qui se fait déjà, et dans la nouvelle loi qui est parue sur la loi une proximité NAPTAM. Donc on a également une invitation de la part des services préfectoraux à signer ces conventions de coordination. Et je peux dire que, oui, Madame Guigou était assise sur mon siège, qu'on n'a pas nettoyé pendant 2 ans. Bon, voilà. Et donc, Laurent, tu peux dire que tous les mois, on a une convention,
Tous les mois se tient une réunion entre les forces de police municipale, la gendarmerie et les élus pour faire un retour sur l'activité, savoir quels sont les chiffres complets de la gendarmerie et de la préfecture qui tentent à dire si la délinquance augmente ou diminue. Donc cette réunion se tient tous les mois à mairie.
bien sûr, il y a décidé des partenariats et des actions conjuguées pour arriver au meilleur résultat possible. On passe aux décisions municipales sur les... Bon, vous avez l'information en page 6, 7. Et je rajoute une décision relative au remboursement d'une concession funéraire qui ne figurait pas, qui est arrivée entre-temps, qui sera sur le compte rendu. C'est-à-dire, il y aurait lieu de rembourser en totalité une concession non utilisée, rétrocédée à la commune par M. X. Cette concession est en vie de toute sépulture. Ça fera partie du compte rendu. Ça n'est pas capital. Donc, si vous avez une question à poser sur les marchés, vous pouvez la poser. Sinon, on va directement commencer. Le point numéro 1 avec Madame Favier, Caroline, à la baguette. Caroline.
Bonsoir, merci. Alors, effectivement, avant de commencer le premier point finance, lors du dernier conseil municipal, je vous ai dit être une adjointe aux finances heureuses, mais j'en attendais pas tant, puisque aujourd'hui, je suis même comblée. Donc, c'est évidemment avec grande joie que j'ai pris connaissance de cet article et que surtout je tiens à le partager avec toute l'équipe et à féliciter. Donc, je l'ai fait à titre privé avec les services, évidemment le service comptabilité et le service des marchés publics. Et je souhaitais le faire aussi ce soir en votre présence, parce que, et leur dire avec leur directrice financière combien c'est agréable et sécurisant, évidemment, de travailler avec des équipes qui sont dans l'excellence. Donc, ceci fait, je passe maintenant au premier point, qui est, vous le savez, depuis maintenant, c'est la troisième année qu'on ne fait plus de budget supplémentaire, mais qu'on intègre dès le premier budget primitif les résultats de l'année précédente. Donc c'est le sujet du premier point, puisque suite à l'excédent de fonctionnement, maintenant vous le savez, on le bascule sur le budget d'investissement pour réaliser les investissements, et l'excédent restant est intégré au niveau du budget primitif. Donc cette somme cette année est de 2 949 313,46 €. Donc le premier point, c'est simplement pour voter, vous demander de bien vouloir voter l'affectation de ces résultats au budget primitif 2020.
Bien, on passe au vote. Qui compte ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Le deuxième point est la présentation du budget pour 2020. Donc on commence par le budget de la commune. Pour ça, un support vidéo, un PowerPoint. Alors, la commune de Mauguio-Carnon, en quatre chiffres, 0% d'augmentation des taux d'imposition depuis 2016. Donc, 2020, ce sera la même chose, pas d'augmentation de taux d'imposition. 12,8 millions d'euros de dépenses d'équipements structurants au service de la population pour 2020. Une capacité de désendettement performante, puisqu'elle se limite à 3 années. Vous vous rappelez ce que ça signifie, qu'il faudrait seulement 3 ans pour nous désendetter complètement, pour rembourser la dette. Et 3 actions prioritaires, la propreté, la sécurité et la nature au cœur de la ville. Ce sera les 3 points qui seront financés par ces 3 volontés financées par le budget 2020. On commence, comme chaque fois, par la section de fonctionnement. Une stabilisation des recettes de fonctionnement. Donc, nos recettes de fonctionnement, en 2019, s'élevaient à 29 288 000 €. Pour l'année 2020, 29 210 000 €. L'évolution est stable, on va dire, un tout petit peu négatif, moins 0,27%. Donc, les prévisions de recettes de fonctionnement fléchissent très légèrement pour 2020. Les recettes atteignent leur plafond et se stabilisent à 29 210 000. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a atteint, il y a un gros travail de fait depuis 2014 sur l'optimisation des recettes. Et là, on voit qu'on a vraiment fait, pas le tour de la question, parce qu'on pourra toujours plus, mais les recettes, on est allé vraiment chercher de partout sur les différentes possibilités d'augmenter nos recettes de fonctionnement. Et puis, bien sûr, motivé aussi par la baisse des dotations de l'État depuis 2014, ce qui fait qu'on a vraiment optimisé nos recettes. Donc, la commune devra être inventive et nous devrons continuer à optimiser ses ressources, à trouver des investissements productifs. Ce sera la suite pour continuer à avoir des recettes suffisantes. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc là, on voit que les efforts ont payé parce que les dépenses de fonctionnement ont eu une évolution entre le budget 2019 et le budget 2020 de 0,38% des provisions. Vous vous rappelez, ça fait maintenant une année qu'on nous explique et que la demande de l'État est de nous dire de modérer nos dépenses de fonctionnement et de les limiter à une évolution de 1,2%. Donc c'est doublement réussi puisqu'on est sur l'évolution pour 2020 au niveau de nos dépenses de fonctionnement. Elles sont maîtrisées à 0,38%. Sachant qu'à l'intérieur sont aussi compris bien sûr les dépenses de personnel. Donc c'est un bel exploit et une belle réussite. Alors, une précision de cet effort, c'est que, pour vous resituer, il y avait quand même eu une baisse des dotations de l'État et surtout ce qui équivaut à l'équivalent pour avoir participé à la baisse de la dette de l'État à hauteur d'1,5 million. Donc, on a quand même perdu 1,5 million de dotations et on arrive à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Un focus sur les dépenses de personnel. Vous savez que les dépenses de personnel, c'est la plus grosse partie de nos dépenses de fonctionnement, puisqu'elles représentent 60% du budget de fonctionnement. Ces dépenses de personnel ont une évolution prévue pour 2020 de 1,81%. La somme représente 14 407 000 euros pour 2020. Alors, en termes de personnes, qu'est-ce que ça représente ? 318 personnes pour 2020, c'est-à-dire un nombre équivalent à 2019. En 2020, il y aura 17 départs à la retraite, dont 15 qui seront remplacés. Il y en a déjà un qui est pourvu, un remplacement qui est fait, et 14 recrutements à prévoir. Il y a en parallèle un plan de pérennisation pour 3 agents d'entretien. Donc on restera ISO sur le nombre de personnels en 2020. Au niveau de la section d'investissement, les recettes d'investissement ont augmenté de 3,72%. Alors c'est un montant pour 2020, la nouvelle recette d'investissement, 18 011 649 euros. Une évolution de 3,72%. Alors, d'où vient cette augmentation ? Différentes choses. La première, nous avons eu des cessions. Enfin, il y aura des cessions pour un montant de 3 775 000 euros. Quelles sont-elles ces cessions ? Vente de bureaux au CCAS, vente de la maison Estève au CCAS, la vente de deux salles de l'Agora, vente de la salle polyvalente du centre administratif et la vente des bureaux situés au cœur de Prévert, conçus pour son usage à la SPL. En parallèle, bien sûr, les dépenses d'investissement structurantes. Alors, vous avez le PPI de la commune qui est ambitieux et qui s'élève entre 2020 et 2025 à 41 millions d'euros. Pour l'année 2020, 12,8 millions d'euros d'investissement. Quelles sont ses dépenses les plus importantes sur 2020? Le schéma directeur de Carnot, donc sous convention de mandat avec la SPL de leur aménagement. La deuxième phase de l'avenue Jean Moulin. La requalification de plusieurs voies. Alors nous avons la rue du Saut du Loup, la rue François Villon, le boulevard Étienne d'Orve et le chemin des Pêchers. La mise en conformité et l'accessibilité des établissements recevant du public. Donc nous avons les gymnases, les arènes, les lieux de culte qui seront mis aux normes. La livraison de l'îlot Prévert et la construction d'une extension pour les bureaux de la SPL, leur aménagement. Le jardin du Bosquet, le déménagement du poste de police municipale et la nature au cœur de ville puisqu'il y a une étude pour réaliser une coulée verte. Donc ça, ce sont les investissements les plus importants pour l'année 2020. Au niveau des politiques publiques, puisque l'idée d'établir un budget 2020, c'est bien sûr de réaliser des politiques publiques. Vous savez qu'on a changé nos nomenclatures l'année dernière, cet été, pour pouvoir raisonner en termes de politiques publiques et de voir quels sont les budgets affectés, non pas par, j'allais dire, délégation service, mais bien par politique publique. Donc l'action communale se décompose en 12 politiques publiques au service des citoyens. Ces politiques publiques se déclinent en 43 programmes et 116 actions dans les projets de direction des différents services de la collectivité. La cartographie des politiques publiques permet d'identifier le périmètre de l'action publique, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a vraiment une visibilité, en, non pas plus par service, mais par vision politique. Un véritable outil stratégique, puisqu'on a cette cartographie qui nous permet, des termes, d'évaluer les différentes politiques publiques. Alors, quelles sont-elles en détail? Citoyenneté et accès aux services publics représentent en 2020 un budget de 2 598 000, c'est-à-dire s'adapter aux besoins de la population, un accueil ajusté et de qualité, faciliter les échanges avec une administration moderne et organiser la démocratie locale. L'éducation représente sur le budget 2 042 000 euros. Préserver et protéger les établissements scolaires, garantir le confort et la sécurité des élèves, garantir la réussite éducative des élèves, faire de l'école un lieu de partage, d'ouverture et d'enrichissement. La jeunesse et solidarité représente 943 763 euros pour financer l'amélioration des sites et bâtiments à caractère social, prévenir, éduquer, accompagner, favoriser le bien vivre ensemble, la régulation des conflits et l'accès aux droits. Développer l'action sociale en faveur des plus démunis. Le sport, le budget est d'1 413 000 euros. Proposer des équipements accueillants et sécurisés. Déployer le sport pour tous, véritable label de Mobio Carnon. Carnon, écrin du sport nautique pour tous. Soutenir et valoriser les associations sportives. La culture, tradition et patrimoine historique représente 3 371 000 euros. Proposer des lieux culturels ouverts sur la ville, soutenir des traditions vivantes, un patrimoine préservé et valorisé, développer une programmation de qualité accessible à tous, faire des médiathèques des lieux de ressources et de sociabilité, renforcer les relations internationales, le dialogue des cultures, la défense des valeurs démocratiques et de la paix. Le soutien aux associations représente sur le budget 2020 2 697 euros. Le but est de déployer des moyens conséquents mis à la disposition des associations pour soutenir leur activité, structurer un guichet unique et des services innovants. La sécurité représente dans le budget 3 406 000 euros. Entretenir et équiper les bâtiments dédiés à la police municipale et forces de l'ordre, garantir la sécurité des biens et des personnes, assurer la sécurité de nos citoyens, maintenir la sécurité des plages et de la station tout au long de l'année et la renforcer en saison, développer la prévention et la sécurité routière. L'amélioration du cadre de vie urbain représente sur le budget 7 955 000 euros. valoriser et structurer l'espace public, veiller à la propreté urbaine, l'aménagement et le développement durable, accessibilité des PMR, 2 317 000 euros pour 2020. Poursuivre la mise en accessibilité PMR, développer l'aménagement durable du territoire, œuvrer pour la préservation des milieux naturels et nos ressources, lutter contre l'érosion du trait de côte, planifier et piloter le projet de ville, le schéma directeur, engager des démarches de développement durable, l'attractivité du territoire représente 283 000 euros. Structurer et valoriser la montée en gamme du tourisme, animer l'activité commerciale pour vitaliser les lieux de vie. Le pilotage et gestion des ressources, 4 964 000 euros. C'est poursuivre la gestion dynamique des finances publiques, piloter la performance, optimiser les ressources de la commune, valoriser les ressources et les relations humaines. Les moyens mutualisés, 6 145 000 euros, maintenir des sites et bâtiments fonctionnels, garantir un environnement de travail optimal, adapté et favorisant l'efficience, organiser des démarches de suivi transversal. Donc, voilà par politique publique le détail du budget 2020 de la commune. Après, on passe sur le port. On verra les questions peut-être après, j'enchaîne avec le port. Alors, parce que sur le port, il faut aussi qu'on vote l'excédent, ouais, le report, ouais. Et puis il faut voter.
Oui, il faut qu'on vote sur cet exposé, sur les interventions, sur l'exposé de Mme Favier.
Oui. Bon, tout d'abord, bien sûr, je me réjouis que, comme tout le monde, que nous ne soyons pas dans le rouge. Donc, je comprends la joie de Madame Favier.
On est même dans le vert.
Mais voilà, j'ai dit qu'on ne soit pas dans le rouge. Bon, on est dans le vert, si vous voulez. Néanmoins, voilà, je voudrais quand même mettre un petit bémol à tout ça. C'est pas un bémol comptable, c'est un bémol politique. C'est pour rappeler aux gens qu'ici nous sommes dans une assemblée politique, c'est-à-dire que comme vient de le présenter Madame Favier, on fait des choix avec les budgets qu'on a et les budgets qu'on peut aller chercher, mais on fait des choix. Alors d'abord, il faudrait rappeler que la bonne santé financière de la commune, le contribuable melbourien, il l'a payé très cher. 30% d'augmentation de la taxe foncière depuis ces deux derniers mandats, et 50% si on y rajoute l'intercommunalité. Donc le contribuable est à féliciter en tout premier lieu. Ensuite, il y a des choix qui ont été faits et d'autres qui n'ont pas été faits. Donc, par exemple, on a un état déplorable de nombreux chemins, de nombreuses rues, de nombreux trottoirs. Aujourd'hui, les habitants des cabanes ont reçu une lettre recommandée de la Poste en disant qu'elle ne voudrait plus distribuer le courrier chez les gens. Nos équipements sont tous vieillissants, que ce soit les gymnases, que ce soit la plupart des écoles, que ce soit toutes nos infrastructures. On a vendu, comme on l'a dit, une grosse partie du patrimoine. Quand on vend son patrimoine, on ne s'enrichit pas. On a des budgets que je qualifie de pharaoniques en termes de bureaux d'études. Beaucoup d'études pour pas grand-chose. Des dépenses colossales qui pourraient être largement évitées. On pourrait orienter les projets de manière très différente. N'oublions pas l'investissement un peu calamiteux de la passerelle Gruyère, qui fait partie des mandats passés, des terrains qu'on a achetés pour rien à la faune de Moguio, un réseau d'eau qui a encore un gros pourcentage de fuite, le choix d'une école à Camus à laquelle on va être obligé de faire des travaux parce que cette école elle n'est pas adaptée du tout à notre territoire méditerranéen, qu'on va être obligé d'y faire des travaux alors qu'elle est neuve. Une école de voile en zone de submersion marine, Peut-être que l'argent public sera englouti un de ces jours sous une vague. Voilà, c'est ce que j'appelle le choix politique dans un budget. Voilà, c'était juste pour mettre ce petit bémol.
Bon, monsieur Bourguet, vous êtes intervenu, tout le monde a bien compris que vous étiez en campagne.
Comme vous.
Nous, on a fait...
Là, elle nous a déroulé votre, votre plan de campagne.
Je vous ai laissé...
On peut le recopier et l'imprimer.
Comme vous êtes un principe que je pense éduquer le poli.
Non, mais je suis poli.
Donc, au moins, montrez-le ici.
Je suis très poli.
Effectivement, vous avez le droit, c'est tout à fait votre droit de critiquer les choix de... les choix qui ont été faits par le groupe majoritaire, auxquels ont adhéré certains d'entre vous. Vous dressez un catalogue vraiment calamiteux, comme vous dites, de tout ce qui, à vos yeux, est amendable, ce qui est votre droit. Il n'empêche aujourd'hui que nous sommes à la tête d'une d'une mandature où on a une dette qui était de 15 millions d'euros, qui est passée à 12 millions d'euros, qui a baissé à 3,5 millions d'euros. Nous sommes à la tête d'un programme d'investissement de 36 millions d'euros réalisé, c'est-à-dire qu'on a une moyenne de 6 millions d'euros par an, et qu'on a un PPI, vous le verrez en fin d'exposé, un PPI qui anticipe 40 millions d'euros dans la mandature à venir, avec une dette qui sera en 2025 ce qu'elle était en 2014. Alors après, le reste relève du commentaire, du café du commerce. Ici, on n'est pas au café du commerce ni au café du midi. On est dans une enceinte qui est une enceinte institutionnelle. C'est votre droit, je dirais même, vous êtes dans votre posture de critiquer. Il n'empêche que les faits sont là et qu'on n'a pas téléguidé les commentaires des journalistes, pas plus que les chiffres qui sont têtus ne peuvent être démentis. Après, ça ne vous convient pas. Vous estimez que la base nautique va être enseveli, c'est votre droit de le penser. Moi, je fais confiance à la justice, je fais confiance à nos choix, qui ont toujours été des choix raisonnés. Mais l'avenir nous dira. Dans l'Assemblée, il y en a une qui parle, elle ferait bien de se taire. Merci. Nous faisons beaucoup de travaux. Bien entendu, M. Bourguet, les bureaux d'études y tournent. Il y a des bureaux d'études qui sont nécessaires pour l'instruction. On n'engage pas des millions d'euros, on n'engage pas 36 millions d'euros avant de faire des choix. Ces choix, ce sont des choix techniques, ce sont des choix administratifs, ce sont des procédures, procédures de marché public, des appels d'offres. Les gens sont très procéduriers, vous le savez, même quand un appel d'offres est bien ficelé, il y a toujours quelqu'un qui demande quelque chose. Donc ensuite... Une fois que ces choix sont faits, qu'ils sont concertés, puisqu'on demande quand même aux habitants ce qu'ils en pensent, et ensuite, nous estimons devoir faire ce qu'on fait. Vous critiquez, c'est votre manière de voir les choses, en disant que les impôts ont augmenté de 30%, c'est votre droit de le dire. Ici, nous sommes ici pour voter des taux. Les taux, on a voté 5% en 2015, et on n'a rien voté depuis 2015. Si vous estimez que la vie n'évolue pas, que le coût de la vie n'évolue pas, et si vous sous-entendez ce qu'on n'avait pas dit, mais que vous avez laissé entendre, que les bases qui ont augmenté régulièrement, la base de calcul qui augmente, bon an, mal an, de 1%, 1,5%, si vous ajoutez tout cela, c'est que vous obérez totalement le prix moyen d'une marchandise à l'instant T. Naturellement et malheureusement, les prix augmentent. Et si vous laissez le niveau de recette à l'année N, comme l'a fait l'État quand il a transféré, après les lois de décentralisation, les compétences aux collectivités, allez demander au département si l'indemnité, si la compensation pour le RSA, qui a été versée l'année où la loi s'est appliquée, est la même aujourd'hui. Malheureusement, non, il crie misère. Donc, ça n'est que justice, qui est un réajustement automatique, comme le coût de la construction. Il y a des coûts de la construction. Vous étiez dans le bâtiment, vous devriez le savoir. Il y a des coûts de construction qui sont réajustés automatiquement et qui ne relèvent pas d'une décision municipale. Alors, bien entendu, les bases ont légèrement augmenté de ce qu'elles augmentent partout. Et c'est effectivement Vous, ce que vous pensez, c'est que peut-être on aurait dû diminuer chaque année de ce qu'on a fait. On l'a fait quand j'étais président de l'agglomération en 2012, quand on a mis la taxe additionnelle, et que nous avons baissé d'autant, ici, à Moguio, les impôts pour ne pas impacter deux fois les Belgoriens et les Belgoriennes. Donc, en termes de justice financière, nous avons œuvré au mieux. Après, je vous laisse, bien entendu, le plaisir de critiquer les fuites d'eau, les écoles. Finalement, il n'y a rien qui va bien. Voilà, c'est votre point de vue. Je le respecte. Je suis un démocrate. C'est tout.
Juste pour préciser que quand je vous dis l'augmentation des impôts, c'est un peu plus du double de l'inflation. Hein, donc, ne venez pas me parler de l'augmentation des prix. Quand je vous dis que vous faites un budget de campagne, bien sûr, vous l'avez reconnu vous-même. On a une moyenne de 6 millions d'euros par an d'investissement.
Je l'ai pas reconnu, je l'ai dit.
Et voilà.
Je suis fier.
On a une moyenne de 6 millions d'euros par an d'investissement. Vous nous présentez un budget avec 13 millions. C'est bien un budget de campagne. Vous n'avez jamais été capable de faire 13 millions d'investissement dans une année. Donc c'est bien un budget de campagne. Vous êtes en campagne, je suis en campagne.
Monsieur Bourguet, la différence entre vous et moi... Moi, je sais de quoi je parle.
Moi,
quand,
non.
Quand on inscrit...
Moi, je ne sais pas de quoi je parle. Ben, vous avez dit on reste poli, alors restez poli.
Mais je parle non. De moi. Je sais de quoi je parle. Je parle de vous.
Moi aussi.
Moi, je vous dis que quand on inscrit 12 millions, ce que vous savez ou que vous ne savez pas, c'est que quand on inscrit des opérations nouvelles, même si on ne les exécute pas dans l'année à venir, on est obligé d'inscrire les crédits. Et si vous avez suivi, ce dont je ne doute pas, les APCP sont justement la description année après année des sommes que l'on va inscrire, que l'on va consommer dans ce budget. Et vous savez comme moi qu'un budget, il s'analyse dans sa pluriannualité. Une année, vous allez avoir des reports, une année, vous allez dépenser moins que ce que vous aviez prévu. L'année d'après, vous allez réaliser la totalité du budget. Parce que les dépenses engagées non mandatées sont reportées sur l'année qui suit, mais elles sont obligatoirement inscrites, ça n'est pas moi qui le décide, elles sont obligatoirement inscrites. Et vous trouverez dans les budgets précédents, qu'il y a des années où nous avons inscrit, des sommes relativement importantes, mais il y a des reports. Quand je dis que nous investissons 6 millions d'euros par an, et que nous inscrivons 12 millions au budget 2020, ça n'est pas mentir que de dire que sur ces 12 millions, les APCP vont dire combien on va en consommer, mais que par nature, je ne peux pas inscrire que ce dont je sais que nous allons consommer. On est obligé, si on engage un travail sur Carnot de 6 millions d'euros, par exemple, comme c'est le cas, on est obligé d'inscrire ces sommes, même si on ne les consomme pas. Ça, vous le savez. Ouais, voilà, bon, moi, je parle de ce que je sais. Après... Vous le commentez comme vous voulez, M. Bourguet. M. Capelletti, et puis M. Sanchez. Ou M. Sanchez, comme vous voulez, ça m'intégrale.
Moi, je ne suis pas en campagne, non.
Vous êtes à la ville.
Oui. Donc, juste un commentaire moi, sur la présentation de ces budgets. Je suis assez à l'aise, parce que je n'ai pas attendu en fait, les classements pour dire que depuis 4 ans, même 5 ans, ça allait dans le bon sens. C'est simplement pour ajouter que bonne gestion, ça veut dire quoi? Ça a été bien résumé dans le projet 2020 budgétaire. C'est-à-dire, en fait, on tient les impôts et la dette en maintenant, voire en intensifiant les investissements, le service public, bien entendu. Voilà, c'est une bonne gestion. Alors, après, ça a plein d'effets aussi externes, notamment d'attractivité d'une commune. Quand une commune est mal gérée, les gens le savent, ils hésitent du coup à s'y rendre. Et puis ceux qui y habitent sont bien contents parce que la bonne gestion, ça veut dire aussi une valorisation générale de tous les patrimoines. Moi je pense que j'ai peut-être tort en fait que sans bonne gestion, on ne peut pas faire de politique. C'est-à-dire que les programmes, les projets, sans bonne gestion, on discute de vent en fait. Donc c'est un élément qui est pour moi extrêmement important. Après je reviens pas effectivement sur le... Tout le monde sait aussi, ça a été une de mes interventions, je suis très très sensible aux impôts. Quand on compare en fait la maîtrise fiscale de la commune avec les dotations budgétaires en moins de 1,5 million, En réalité, c'est comme si on avait réussi en fait à économiser 1 million. Hein, donc, voilà.
Merci, M. Sanchez.
Alors, moi, je voudrais m'adresser à une femme heureuse. Donc, je n'ai pas su quel homme se cachait derrière elle, mais bon. Alors, je voudrais juste lui poser une question. On a parlé d'association.
Ah,
ouais, non, mais. On a parlé d'association, et on a parlé, comme on s'appelle, de budget par rapport à ça, et de tradition. Alors, en ce moment, il se joue un problème avec les assureurs, avec les associations taurines. Et avec tous les problèmes qui en résultent, je voudrais savoir votre position, vous, aujourd'hui, par rapport à ça. Et si ça a été appréhendé dans le budget de la commune ou pas, si vous aviez quelque chose à me dire par rapport à ça. C'est tout.
Non. Aujourd'hui, je prends la parole, on n'est pas dans une approche budgétaire. Là, nous sommes dans une prévision budgétaire qui a fait l'objet d'un débat d'orientation budgétaire. Bien entendu, nous sommes sensibles à la situation des maladiers avec une menace qui pèse sur la manière dont ces traditions sont, peuvent être perpétuées et, disons, déroulées. Nous les rencontrons d'ailleurs demain. Nous avons réfléchi avec eux, nous allons réfléchir avec eux à une manière d'accompagner ce sujet, mais aujourd'hui, j'allais dire, ça n'est pas que ça soit relatif, votre question. Aujourd'hui, la question est de savoir si on parle de la sincérité d'un budget que l'on engage. Le débat qu'on a avec M. Bourguet, avec nous tous, c'est justement les choix politiques qui sont faits. Là, le choix d'aider les maladiers, il est tout acquis. On ne va pas faire un choix en disant on les aide ou on ne les aide pas. Bien entendu qu'on va les écouter, qu'on va voir comment le monde de la Bouvines peut répondre à cela et comment les collectivités vont se positionner, comment l'Association des maires de France ou des maires de Camargue va se positionner. On fait partie d'une équipe, d'une réflexion. On ne peut pas, en conseil municipal, dire avec une promesse de campagne ce qui serait peut-être facile. Ben on va donner l'argent qu'on leur demande en plus. Ce n'est pas comme ça qu'on peut aborder le sujet. Je pense que le sujet, il n'est pas simple, il est complexe, il était latent, on le savait. Mais les finances publiques sont là pour accompagner les budgets. Ils ne sont pas là forcément pour les équilibrer. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on essaie d'y travailler en amont. Nous signons des conventions de partenariat et il appartiendra au conseil municipal, justement, au prochain conseil municipal, de voir quel type de convention pour aider et à quelle hauteur on peut aider la profession des maladiers avec ce sujet, dont on parlera également au niveau de l'intercommunalité, mais qui aujourd'hui n'est pas une décision, c'est une manière d'en parler. Mais c'est une digression. Aujourd'hui, le sujet, c'est de savoir si le budget, les chiffres, ce qui a été présenté, les documents qui vous ont été donnés, sont des documents que vous approuvez, que vous discutez, que vous confrontez, que vous appréciez ou pas. Voilà. Hein? Mais nous sommes sur le sujet. Donc, voilà. Mais on ne peut pas aller plus loin qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet.
Que j'avais de vous poser la question.
Oui, non, mais bien entendu. Ah, la question est posée, mais la réponse... Ce n'est pas des réponses avec, comme le prêt-à-porter, où il y a le S, le L, le XL, et ainsi de suite. C'est plus complexe que ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la présentation du budget? Non? Je vous demande de voter cette proposition du budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Madame Favier, présentez-nous le budget du port, s'il vous plaît.
Alors, juste avant, le point 3, comme on l'a fait pour la commune, la reprise anticipée des résultats du port. Donc, même principe, pas de budget supplémentaire. Donc, on reporte dès le budget primitif l'excédent 2019. Donc, l'excédent de fonctionnement bascule pour l'investissement. Et la différence entre les deux nous donne le fonds de roulement qui est €1,083,237,60 à reporter et à affecter par anticipation au budget primitif de 2020. S'il vous plaît.
Question? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Donc, ce qui nous permet de passer au point 4 pour le budget primitif du port. Alors, là, on parle de section d'exploitation pour le port. Donc, l'année 2020 va être rythmée par deux gros projets, qui est le dragage
et la déconstruction et reconstruction de la capitainerie. Donc l'opération de dragage du port s'inscrit dans un projet de mutualisation des dragages de la base d'Aigues Mortes, Port Camargue, Palavas-les-Flots, Frontignan, Pérol et Carnon. Les travaux du port de Carnon se dérouleront en 3 ou 4 phases afin de permettre un financement maîtrisé pour continuer à fonctionner normalement. Vous savez qu'on a fait des provisions depuis 2015 qui vont servir maintenant pour le financer. Dans ce même temps, l'opération de déconstruction et reconstruction de la capitainerie devrait débuter dernier trimestre 2020 et le déménagement des locaux s'effectuera avant la saison 2020. Vous le savez, mais il y a une délibération plus loin que la capitainerie, les services seront au niveau de la passerelle. Les recettes de fonctionnement en hausse de 27,91% pour le port. Donc c'est une progression importante, mais qui est surtout due à la reprise de provisions pour les travaux de dragage. Hein, puisque je vous disais, depuis 2015, on fait des provisions pour le financement du dragage. C'est pour ça que cette hausse est importante cette année. Plus une avance de 30% sur la subvention attribuée par l'État pour l'opération de dragage pour la première tranche. La révision des tarifs pour le calcul de la redevance des autorisations d'occupation temporaire commerciale de la zone ouest. Donc vous avez le détail dans l'encadré. Donc ça nous fait une proposition pour 2020 des recettes de fonctionnement à hauteur de 4 156 489 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement connaissent elles aussi une évolution significative. Pourquoi ? Il y a un renouvellement important des fournitures d'entretien des agents. Au niveau sécurité et pollution, donc une augmentation de 138 600 euros hors taxes. Ça s'explique parce que maintenant, il y a énormément de contraintes pour anti-pollution, c'est-à-dire au niveau des méthodes utilisées, au niveau des produits utilisés qui sont rejetés dans la mer et qui coûtent beaucoup plus cher que les anciens produits. Il y a aussi des kits qui doivent être fournis anti-pollution aux plaisanciers et qui permettent de réagir très vite au cas où il y aurait une fuite de produits polluants des bateaux. Donc tout ça a un coût, bien sûr, mais qui permet de protéger notre environnement. L'opération de dragage, qui représente 725 000 euros hors taxes, et le recours à une société de surveillance spécialisée dans le domaine portuaire pour un montant total de 150 000 euros hors taxes. Ça, c'est parce que il y a eu des incidents au niveau du port. Et pour y répondre, le choix est de, pendant une année au moins, mettre une société spécialisée qui va surveiller, des agents qui vont surveiller la nuit le bassin, le port, en attendant que toutes les caméras soient mises en place et le système surtout de surveillance continue.
En fait, on fait ce qu'on a fait pour la police. On avait un service de police qui se finissait à 20h, à 22h, à 1h du matin, selon les moments de l'année, au port, compte tenu de la recrudescence des vols. Nous allons faire une surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rythme de travail des veilleurs de nuit fait qu'ils travaillent 6 jours sur 7 et qu'ils s'arrêtent à 4 heures du matin. Et que, par ailleurs, les veilleurs de nuit ne sont pas habilités physiquement à découdre avec les éventuels contrevenants. On a d'ailleurs eu une plainte, on a un veilleur de nuit qui a été agressé, donc le veilleur de nuit, finalement, est un signaleur. Dans la nouvelle organisation portuaire, dans la gestion des personnels, il est envisagé, justement, de faire appel à des professionnels pour, justement, le temps que le dispositif de centre de protection urbaine et de nouvelles caméras puissent mieux s'identifier sans mettre en danger physiquement, que ce soit une société spécialisée ou que ce soit des agents portuaires, pour justement redoubler de vigilance. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a arrêté une personne qui est l'auteur d'une quarantaine de faits délictueux sur l'année 2018-2019. Une personne qui fracturait les bateaux. Notre collègue, le maire de Bayard, avait été victime justement de ces agissements. Il y a d'autres personnes dans la salle également qui ont été victimes, voisins de gauche. Et si vous voulez, il fallait mettre un terme à cela avec une vigilance qui ne peut pas être demandée aux agents du port en l'état. D'autant qu'on a un agent à l'invalidité et qu'on n'a pas le roulement qui peut le faire. Donc effectivement, ce budget est un budget qui est pensé et qui est provisionné, bien sûr, par le budget du port. J'en profite pour dire que l'opération de dragage ne représentera pas que cela. Nous avons une grosse subvention de la région qui nous aide, et je remercie la région de nous aider justement, comme elle aide les autres ports, comme nous a aidé également pour la base nautique. Il faut dire les choses, et cette aide a été bien appréciée. Merci.
Alors, au niveau des recettes, donc dépenses d'investissement, c'est bon. On passe aux recettes d'investissement. Recettes d'investissement. Donc, l'importante augmentation des recettes d'investissement, plus 51,3%, s'explique par divers éléments. Le premier, c'est la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent. C'est le premier point qu'on vient de voter, c'est-à-dire qu'on intègre dès le budget primitif le report de l'année d'avant. Et vu qu'on avait provisionné pour financer le dragage, forcément ça nous fait rajouter 537 000 euros au budget. Le second est l'inscription d'un emprunt de 250 000 euros hors taxe qui sera levé au fur et à mesure des besoins. Et le dernier facteur de cette augmentation, c'est le virement des 200 000 euros hors taxes de la section d'exploitation. Donc, au niveau des recettes d'investissement, un montant de 1 459 041 euros pour le budget de 2020. Les dépenses d'investissement, comme je vous le disais en introduction de ce budget, pour l'année 2020, ce sera essentiellement donc le budget un PPI aussi, hein, un plan pluriannuel d'investissement, et ce sera essentiellement la destruction et reconstruction de la capitainerie et le dragage du port. Voilà pour le budget du port.
Des questions ?
Oui, deux, trois choses. Bon, d'abord, moi je vais voter contre le budget principalement à cause du problème de la capitainerie. Donc vous savez que ce sujet fait quand même, il est controversé, même par les plaisanciers qui sont les principaux financeurs.
Ce sont les seuls financeurs.
Pas les seuls, il y a un petit peu d'argent public aussi.
Absolument pas.
Pas du tout.
Non, je rappelle, monsieur Bourguet.
Les 200 000 euros de la région sur les études.
Monsieur Bourguet, je rappelle.
Est-ce qu'il y a eu 200 000 euros de la région?
Monsieur Bourguet.
C'est marqué.
Je dis.
Ça, c'est notre argent.
Attendez. Monsieur Bourguet, le budget du port est un budget autonome. C'est comme le budget de la Fonde Monguiau. C'est un budget autonome.
Je sais ce que ça veut dire. C'est comme je comprends le français jusqu'à nouvel ordre.
C'est un budget annexe.
Oui.
On le vote partout de manière différenciée.
Oui.
C'est-à-dire que les recettes qui l'alimentent sont à distinguer des recettes qui alimentent le budget général.
Mais ça, on le sait.
La région, c'est nous aussi.
Pas problème,
que le département nous aide aussi. La fiscalité locale n'est pas du tout impactée par toute décision.
Ça, on ne parle pas de ça.
Non, mais vous me dites, ça, on va payer le parti. Vous n'allez payer rien du tout.
Non, mais oui, moi
monsieur Bourguet,
quand la région paye, quand le département paye, c'est moi qui paye. Hein. Je suis désolé.
Mais.
Ah oui, où que ce soit. Où que ce soit. On a payé un cinéma. On a payé un cinéma à Bédarieux, mais j'ai contribué à le payer.
Monsieur Bourguet, si la région paye, comme dit monsieur Pradeil, c'est qu'on peut leur faire confiance.
Mais oui.
Et c'est qu'elle nous fait confiance, la région. La région est un partenaire. La région, ce n'est pas un ennemi.
Vous êtes
bien placé pour le savoir.
Je ne dis pas le contraire.
D'accord. Au moins sur ce point, monsieur Bourguet.
Je dis juste que.
On est sur ce point.
La région a voté pour.
La région a voté pour. Elle a voté pour les études. Elle a voté pour les études.
Mais même pour le dragage. Je l'ai
dit. Même le dragage, heureusement.
Je l'ai dit tout à l'heure.
Bien sûr.
Alors, il y a un moment pour ça.
Là, on parle de la capitainerie.
Non, on parle du port. On parle du budget du port. Vous avez un point de vue sur la capitainerie qui vous est propre,
oui.
Que vous partagez avec certaines personnes.
Oui. Ça, qui sont des payeurs, qui sont des prêts. qui sont des payeurs.
Mais heureusement, oui.
Oui,
oui. Bon,
d'accord.
Soit. D'accord. Bon, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord.
Mais après, c'est une choix, d'accord. C'est tout. C'est pas...
On est d'accord. On est d'accord.
Je dirais de plus.
On est d'accord sur le principe.
Voilà.
Bon.
Après, j'avais une autre question, c'est par rapport à la tarification des bornes électriques à la longueur du bateau, je crois que c'est maintenant.
Non.
Alors, là, à la consommation.
C'est un moyen, le vent peut être un moyen de propulsion. Non, c'est la consommation.
Pour chaque borne.
On a, alors, il y avait une injustice, c'est l'emplacement. Alors, deux choses. La tarification de l'emplacement est conditionnée par la longueur du bateau, avec une mesure qui est faite, ce que vraiment le bateau, la dimension réelle, parce que c'est comme une voiture qui est en série, elle a une certaine dimension, quand certains l'ont customisé, qu'ils y ont ajouté des ailerons, et ceci et cela, c'est pas la même voiture. Donc pour les bateaux, c'est un peu pareil. Donc, on met le mètre au pont d'échappement, et on le met au bout. Et il en ressort une longueur et une tarification qui est votée en conseil portuaire, qui est annoncé, les gens le savent. Voilà. Là, l'électricité, c'est autre chose. L'électricité, au départ, quel que soit, on divisait la consommation globale entre tous les ammoniateurs et ceux qui consommaient beaucoup, ben, ils s'en sortaient bien, puisqu'ils consommaient de l'électricité payée par les autres. Ce principe de solidarité, il n'était pas tellement choisi. Donc, on a revu les ammoniations avec une approche, j'allais dire, plus appropriée. Avant, quand vous changez de catégorie, que vous consommiez, que vous dépassiez d'un ou de mille, pouf, vous payez un forfait. Maintenant, vous payez au prorata de ce que vous consommez. Et la législation nous permet aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années, revendre l'électricité. C'est-à-dire, le coût réel est un coût facturé. Là-dessus, on ne gagne rien. On y gagne en équité vis-à-vis des ammoniateurs, des usagers du pont. Je consomme peu, je paye peu. Je consomme beaucoup, je paye beaucoup. C'est chacun bien. Paye sa part. Ce sont deux choses qu'il faut dissocier. Voilà.
Très bien. C'est tout.
Non, mais c'est bien. D'accord. Bah, écoutez, bah, c'est bien que vous soyez curieux. Ben oui, un homme curieux, c'est mieux qu'un curieux homme.
Après, j'ai une autre question, une curiosité aussi, encore. J'en ai des curiosités. Est-ce que. Bon.
Est-ce qu'il y a un vote de l'année dernière quand...
Comment ?
Le changement, on l'a
voté. Oui, oui, on l'a voté l'année dernière. Oui. Mais je veux savoir comment ça a fonctionné.
Curiosité à refaire,
oui. Monsieur Broguet. Il y a un forfait de plus de 700 kW annuels, quand même.
D'accord.
C'est-à-dire que dans le prix que vous payez, le plus petit barcode que vous ayez, vous payez déjà une consommation, vous pouvez avoir pour 780 €, que vous consommiez 700 ou 100.
D'accord. Pour, on m'a dit, après, c'est peut-être pas vrai, hein, c'était du café du commerce, qu'il y a des gens qui ont une sorte de spéculation sur les anneaux, en fait. Donc avec les négociants en bateau, il y a une sorte de spéculation sur les anneaux. Je sais qu'il y a des mairies qui ont mis en place des garde-fous par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'il en est à Carnon. Il y a des gens, par exemple, ils ont donné 10 000 euros de commission pour avoir une place.
Alors,
c'est peut-être pas vrai. Hein,
Monsieur Bourguet, vous parlez de ce qu'on appelle l'économie souterraine. Dans le milieu nautique, peut-être qu'elle existe.
Sous-marine.
On va l'appeler sous-marine. Je ne peux pas vous laisser dire que le système de transmission ou d'acquisition d'une place à quai soit conditionné par un pot de vin. Non.
Non, mais je ne parlais pas de pot de vin. Hein. Moi,
pas du tout.
Je parlais des gens qui achètent des vieux bateaux et qui revendent de l'anneau.
Il y a, effectivement, il y a parfois la volonté, et c'est là où, justement, il faut agir pour la dynamique du port. Il y a la volonté de la part de certains d'acheter un vieux bateau pour avoir une place et pas pour naviguer. Donc il faudra, à l'avenir, dissocier, et c'est dans nos intentions, dissocier la place du bateau. Il est normal aussi que pour les professionnels de la mer, nous réservions, comme nous l'avons fait, des places qu'ils louent avec une ammoniation au port. Enfin, je ne vais pas citer les noms parce que
bon, c'est normal. Hein,
ça, c'est normal.
Effectivement,
il faut aussi que pour les professionnels, quand ils vendent des bateaux, il faut aussi qu'ils puissent, s'ils vendent un bateau sans une place, c'est comme s'ils vendaient une voiture sans moteur. Ça ne sert à rien. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de places qui sont réservées à ceux qui vivent, justement, de la plaisance, ce qui est normal. Mais ni de près ni de loin, je le cautionne, et le conseil d'administration, les élus, M. Balsamo, M. Cravert, Mme Gély, qui représentons la commune dans cette instance, n'avons entendu parler de cela, à supposer que sous le manteau, à supposer que ce genre de pratique puisse altérer justement la transparence de la gestion à laquelle nous sommes astreints, que je vous dois, et qui est réelle. Et qui est réelle, M. Bruyère. Donc, il est certain que, j'allais dire, vendre le bateau, acheter un bateau en achetant la place, c'est un sujet dont nous reparlerons, qui peut être dissocié, et sur ce point de vue, je pense qu'on peut avoir une réflexion commune et juste.
Je pense qu'il faut des garde-fous.
Commune voilà. Et juste, tout à fait.
Il faut des garde-fous.
Tout à fait. Tout à fait. Et des garde-côtes. Alors,
on a été au vote.
On a été au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.
Le point numéro 5, il s'agit du vote des taux 2020. Justement. Donc les taux n'évoluent pas. Nous, la volonté politique est de garder des taux identiques. Donc taxes d'habitation 14,68% resteront identiques, 17,60% pour le foncier bâti et 90,26% pour le foncier non bâti. Ça représente un total de produits de 12 208 000 euros sur l'année, bien sûr. Alors, je vais quand même, pour vous donner un ordre d'idée, vous donner les taux des communes des strates équivalentes. Sinon, ça ne voudrait pas dire grand-chose, parce que si je compare avec le taux moyen national, là où notre taxe d'habitation est à 14,68, le taux national est à 24,54. Et là où notre taxe foncière est à 17,60, le taux national est à 29,19. Mais ça, ce serait pas très honnête intellectuellement. C'est-à-dire qu'il faut le ramener.
Alors,
voilà.
Merci.
Il faudrait le ramener. Comme vous voyez. Vu que je vais être heureuse jusqu'au bout, je vais rester honnête et je vais vous donner les taux des communes de strates équivalentes. Alors, là. Je répète la nôtre avant. Taxe d'habitation, 14,68. Latte, 20,33. Castelnau-le-Lez, 16,36. Notre taxe foncière, 17,6. Latte, 30,05. Et Castelnau, 33,06.
Ça, c'est celui qui reste. Hein. C'est pas celui qui sera supprimé. Hein.
Ah oui, la taxe foncière reste. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je trouvais assez intéressant de la situer par rapport aux autres taxes. Après, il y a beaucoup plus, hein, mais vu qu'on a décidé d'être honnête intellectuellement.
Il y a aussi la hauteur des bases. Vous avez des bases qui sont des fois très élevées. Il y a des communes qui n'ont pas touché les bases depuis des années parce que l'effort colossal avait été fait il y a quelques années et que les bases, le taux n'étant qu'un multiplicateur, si vous partez de haut, le moindre que vous multipliez, ça fait vite beaucoup d'argent. Bien. Donc, je vous invite à voter le maintien des taux.
Juste une petite remarque pour mon ami Laurent Capelletti. J'espère qu'il aura compris, vu ce qu'a dit Madame Favier, qu'on n'a pas à intérêt à faire partie de la métropole.
Non, mais...
Cher Daniel,
on vous laisse ou on continue? Allez, monsieur Capé, je suis 2 minutes.
J'invite mon ami Daniel à lire de façon exhaustive et entière les bouts de texte qu'il prend sur mes nombreux articles, et en particulier celui-ci. Alors, pour les prochains que tu feras, je t'invite à citer la source. Comme ça, chacun pourra avoir l'entièreté de l'article.
On appelle ça morceau choisi parmi morceaux et parts. Bien, allez. Donc, tout le monde sait que la politique de la commune de Mongiocarnot est bien de rester dans le pays de l'or. Et d'ailleurs, les lectures à venir, auxquelles j'inviterai le maximum de lecteurs, le prouveront, comme l'a prouvé le passé. On passe au vote, s'il vous plaît. Donc, je vous demande d'approuver les taux d'imposition qui sont proposés. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, si vous abstenez, vous nous faites confiance. Qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais c'est...
Non, je rigole.
3 abstentions.
Vas-y, Caroline, point numéro 6.
Pardon. Juste une chose, la taxe d'habitation pour, sera définitivement donc annulée en 2023. Et jusque-là, l'État rembourse à l'euro près avec une partie de la taxe foncière du département. Voilà. Le point numéro 6, alors là, il va y avoir toute une succession de modification des autorisations de programmes et crédits de paiement, c'est-à-dire les APCP.
Ce dont on parlait tout à l'heure.
Voilà. Si, alors, je vous redis juste, l'APCP permet d'indiquer sur le budget uniquement le montant qui va être dépensé sur le projet d'investissement. Donc, pour la fonte de Mobio, la création du fossé nord, il sera, pour cette année, ce sera clôturé pour un montant de 760 358,48 euros. Je peux toutes les enchaîner, on n'est pas obligé de voter à chaque fois, non? Si, à chaque fois. À chaque fois.
C'est un vote formel. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Pour le programme de voirie 2018.
C'est-à-dire, c'était des sommes engagées non mandatées.
C'est ça.
Ça pourrait paraître curieux de monter 2018.
Alors, c'est parce qu'il reste à payer. Nous aurons un crédit à sortir et qui sera le dernier sur 2020. 59 593,67 euros. Donc, il faut le voter.
La rue des Ambroises à Carnot, il n'avait pas voulu qu'elle soit. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Au niveau du projet de la rue du Saut du Loup, en 2020, il y aura un crédit de paiement de 290 000 euros.
Là, vous pouvez le voter, monsieur Bourguet, comme vous voyez que les chemins ne sont pas bons. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, vous auriez pu faire l'effort quand même.
Au niveau de la rue François Villon, il s'agit du dernier crédit qui s'élève à 308 656,94 euros.
Celle-là, elle traîne un peu.
Hein. Ah ouais, mais... Oui, vas-y, Bernard.
Oui, elle traîne un peu, effectivement, vous avez raison, mais elle traîne parce que nous attendons désespérément les télécoms pour enterrer la ligne téléphonique. C'est pour ça que les trottoirs du côté de la ligne téléphonique, les trottoirs ne sont pas encore faits. Ils seront faits quand la ligne sera enterrée.
Ouais, mais il y a eu aussi des installations qui ont été faites et défaites.
Oui. Il y a eu des installations qui ont été faites et défaites. Ça a été simplement... Elles n'ont pas été défaites et défaites parce qu'elles n'avaient pas été posées définitivement. Elles avaient été posées comme ça pour voir ce que ça donnait. Et effectivement, les riverains ont demandé à ce que nous ne fassions pas d'obstacles, comme il était prévu, de faire un obstacle pour briser la vitesse. Donc on ne fait plus les obstacles parce qu'effectivement, c'était un petit peu gênant pour la circulation. Mais la quinconce sera quand même maintenue, étant donné qu'on fera du stationnement alterné de chaque côté.
On avait quand même amené des tuyaux d'eau, de tout ça.
Non, pas de tuyaux d'eau.
Oui, si, dans les triangles, là.
Non,
ou d'électricité, ou d'électricité.
Oui, il y avait des fourreaux.
Des fourreaux, oui.
Des fourreaux, oui, des tuyaux.
Oui, des fourreaux.
D'accord, des fourreaux. Il y avait effectivement des fourreaux.
On a adapté à ce qui était l'intelligence situationnelle qu'on appelle.
Oui, non, mais c'est bien.
Voilà.
C'est très mieux que ça soit discuté avant. Mais...
Et les riverains, il y a eu des réunions. Hein.
Faire et défaire, c'est toujours travailler, on dit.
Ils étaient prévus, les riverains étaient prévus qu'on ferait ça, mais c'est à la pause, enfin, à la pause temporaire, puisqu'on ne l'avait pas fixé, c'est là que les riverains se sont aperçus que ça pourrait être gênant. Mais autrement, c'était prévu, ils l'avaient accepté.
D'accord. Voilà.
Allez, on vote pour le saut du loup. Qui est contre? Qui s'abstient?
Ensuite, la rue Jean Moulin. Donc, fin 2020, ce sera le dernier crédit de paiement pour 810 438,47 euros.
Vote contre.
Est-ce oui. Que, non, non, ça n'a rien à voir, mais est-ce que la route, elle va être ouverte un jour ou...
Un jour, oui. On l'ouvrira de nuit pour voir si les gens s'en aperçoivent. Normalement,
c'est honteux pour un jour.
Ça pourrait.
On va juste enlever l'arbre en plein milieu.
Fin mars, début avril. Alors, elles sont ouvertes pendant plusieurs mois. Et ensuite, elles seront à nouveau refermées pour certains travaux. Mais on est conscient de l'attente des riverains, dont on s'occupe d'ailleurs pour garer les véhicules, pour finir la dernière tranche. On est en train d'organiser des poches de stationnement pour pérenniser le moins possible. C'est vrai que les habitants de la rue Garmel-Aldier, Thiolus ou Buisson-Bertrand aujourd'hui ont un peu oublié le bénéfice, les tourments qu'ils ont dû subir. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on est en travaux sur cette tranche longue et complexe. Voilà. Allez, on continue.
On a voté.
Non. Peut-être on va avoir voté une année d'ici la fin. Qui est contre? Qui s'abstient? On n'est pas loin.
Au niveau du schéma directeur de Carnon, donc le crédit de paiement pour 2020 est de 584 381,26 euros.
Avec le détail qui est le calendrier. Voilà.
Donc, tout le détail a été après fourni.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes contre le schéma directeur de Carnot? Très bien.
En fait, il n'y a pas un projet à Carnot où ils sont pour.
Et ouais.
Il y en a pas.
Dans ce dentier, que
tu les verras, les projets.
Ah non, mais là.
Cependant.
Moi, on a eu la controverse pendant le mandat. Sur le jardin, la fois dernière, on a eu une controverse en disant que c'est trop cher.
Oui.
Sur la capitainerie,
oui.
Ça ne va pas du tout. Sur la base nautique, ça ne va pas du tout. Donc il n'y a pas un seul investissement à Carnot qui trouve grâce à vos yeux, au moins. Non, mais que vous absteniez.
Les choix ne sont pas les bons, c'est tout.
Non, mais que vous absteniez à la rigueur. Fait que vous vous opposiez aux investissements à Carnot, il faut, quand on aime Carnot, il faut pousser un peu. Et là, moi, je me...
On n'a pas la même façon d'aimer.
Oui, non, mais... Non, mais si vous... Moi, je veux bien qu'on soit en période électorale, mais quand même, quand il s'agit, pour Carnot, de pousser l'investissement...
Mais ça veut dire quoi?
On devrait tous... Vous savez qu'il y a un enjeu... Il y a un enjeu touristique, il y a un enjeu d'urbanisme, et l'urbanisme, c'est pas obligatoirement.
Et pas que touristique, il y a les cadres à l'année.
Oui, non, mais quand je dis urbanistique, c'est-à-dire de l'habitat, de la qualité de vie, des circulations handicap, l'urbanisme, c'est pas systématiquement un lieu de controverse. On peut arriver de temps en temps à tomber sur des points d'accord. Et là, il n'y a pas un seul sujet à Carnot sur lequel on a pu converger. Et ça pose un souci. Il faut avoir de temps en temps la capacité à agréger des projets consensuels.
C'est pour ça que tu es pas arrivé là.
C'est pour ça que c'est impossible d'être avec vous.
Allez, hop. On est en train de dériver. On passe au vote. Non, on a voté.
On a voté.
Allez, on se dépêche d'aller vers peut-être quelque chose de plus consensuel.
Mise en conformité des établissements recevant du public. Ah. Alors, le crédit d'investissement pour 2020, 802
829,87 euros. On y va déjà ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté.
Tiens, on a voté pour. Voilà. Ouais. Laurent, on peut te faire plaisir.
Comme quoi?
La réhabilitation de l'îlot Prévert.
Tout
Dernier crédit de paiement pour 2020, ce sera la fin, 1 150 000 euros.
On passe au vote. Contre. Abstention. Pour. Les autres. Merci.
Le point numéro 7. Donc les APCP sont terminés. Bilan des cessions et acquisitions pour 2019. Alors nous avons eu des cessions, les parcelles cadastrées CH4, 5, CE50, 52, 54, 56, 57 et CE59 de la ZAC de la Fond de Mouguio près de la SPL Laure Aménagement pour un montant de 466 095 euros. Il y a eu la maison Pélissier pour un montant de 400 000 euros. Et une des salles Agora, la numéro 4, pour un montant de 75 000 euros. Et pas d'acquisition.
Passe au vote. Contre.
On vote pas, là.
Ah, on prend acte. Plus qu'à prendre. D'accord. Continue.
Mise à disposition à titre onéreux des locaux de la passerelle Martin. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour permettre les travaux de la capitainerie tout en maintenant le service sur le port, les services de la capitainerie seront installés sur la passerelle Martin. La durée des travaux est prévue pour 2 ans. Et le port paiera un loyer de 32 000 euros TTC par an.
Pas grave, mais ça c'est tout. Bien. On passe au vote.
Oui.
Contre. Abstention. Si.
Excusez-moi une précision pour les gens qui sont dans le public. Je voudrais juste qu'ils sachent qu'on ne vous a pas rejoint quand même. Hein. Pas quand même un petit peu que.
Comment doit le prendre, moi?
Non, je ne suis pas en campagne du tout, hein. Je ne veux pas qu'ils croient que moi, si je vote oui, c'est parce que je suis avec vous. Hein.
D'abord, non, mais bon. Des fois que le consensus serait compromettant. Moi, je pensais que l'oreille gauche avait bien entendu ce qu'avait dit Laurent Pradaille. En plus, on était nombreux à faire les mêmes choix.
On a des convictions, on les garde quand même. Hein.
Ah bon?
Oui, bon.
Ah bon. D'accord.
Tu as encore contre la NJC?
Non, pas. Je m'avais promis que je vais dire, ça fait 2 ans que je t'attends. Donc, tu vois, tu n'as pas de parole.
Bien.
Bon, il y a des choses comme ça, c'est vrai.
Ah, avec son téléphone, ça va être courant.
Ça donne le temps du sport. Ce dernier conseil, on aurait dû le faire en début de mandat, finalement. Allez, point 9.
On a voté. Point 9, c'est la demande de subvention. Alors c'est une suite de demandes de subvention selon les projets. Valorisation et rénovation du patrimoine scolaire de la commune. Et comme chaque fois, on vous demande de bien vouloir nous autoriser à demander les subventions les plus élevées possibles pour un coût prévisionnel de 1 521 900 euros TTC. Donc à voter à chaque fois aussi.
On ne peut pas tout voter d'un coup.
Oui.
On
ne
peut pas voter tout d'un coup.
Là, je ne pense pas.
Oui.
Allez, général. Allez.
On fera comme voyage.
Une valorisation et rénovation du patrimoine sportif de la commune. Donc, même chose pour un projet de 245 800 euros TTC, pour la valorisation et rénovation du patrimoine culturel de la commune pour un projet de réalisation de 331 400 euros TTC, pour la valorisation et rénovation du patrimoine administratif pour un projet de 531 500 euros, pour la mise en accessibilité des bâtiments publics pour un montant de 743 160 euros, pour des travaux équipements de voirie pour un montant de 353 000 euros, pour le programme de voirie 2020-2021 pour un montant de 633 000 euros, et pour la rénovation de l'éclairage public pour un montant de 209 000 euros, ainsi que pour la plateforme polyvalente de l'espace Montrassel, c'est-à-dire l'aménagement du parking, pour un montant de 270 000 euros. La vidéoprotection Même chose, demande de subvention pour un projet de 264 000 euros. Et voilà, la totalité des demandes de subvention.
Bien. Ils sont regroupés, c'est bien. Alors je vous invite donc à approuver ces demandes de subvention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien voilà, je vous remercie, c'est très bien. On y arrive.
Le point numéro 10, la gestion des eaux pluviales urbaines transfère à l'agglomération du Pays de l'Or. Alors là avait lieu le 28 janvier 2020 la commission de la CLET, c'est-à-dire commission locale d'évaluation et de transfert de charges, puisque la gestion des eaux pluviales est transmise à la communauté de l'agglo. La question était comment ça peut rester équitable, sachant que toutes les communes n'en étaient pas au même point d'aménagement sur ce sujet. Donc le résultat était de dire que sur 3 ans, il y aurait 2/3 du coût de renouvellement payé la première année en 2020, 2/3 la deuxième année en 2021, ce qui représente un montant par année de 425 777 euros et qu'il y aurait un point de fait, un bilan pour l'année 2022 où il y aura 100% du coût de renouvellement, soit 638 664 euros.
En fait, le problème auquel nous avons été confrontés, c'est que au cours des 10 dernières années, les sommes consacrées aux pluviales n'ont jamais atteint la somme demandée par l'agglomération qui prend la compétence. Pour personne. Même, alors pardonnez-moi du terme, mais les petites villes, en tout cas les villes les moins importantes, qui consacraient très peu, 1000, 2000, 3000, pour curer un ruisseau, des choses comme ça, elles se voient impactées de 20, 25 000 euros. Donc pour elles, c'est énorme. Comme pour nous, l'évaluation qui a été faite, même la pondérance entière, est largement supérieure à ce que nous payons. Et comme c'est forfaitaire, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, ça sera comme ça. Ce qui ne nous paraissait pas équitable. Et il est vrai que nous sommes parmi ceux qui avons le plus réalisé au cours des dernières années, et même en ayant pas mal réalisé, le différentiel qu'il y a entre le réalisé et ce que nous devrons payer, par solidarité, aidera certaines communes, parce que nous verrons au cours des 2 années qui viennent, la réalité, ce qu'on appelle le compte administratif, on verra si on a atteint la somme qui va être prélevée de l'attribution de compensation. L'évaluation, je dirais que l'évaluation théorique est trop élevée, même en la pondérant sur des encours d'emprunt à 150 ans ou 100 ans. Ça pourrait être combien ? 150 ans. Ce sont des sommes faramineuses. Dans une enceinte comme la nôtre, on avait, il y a quelques années, imaginé élargir le lit du Salaison. On est pour, on est contre, enfin, on voulait lutter contre les inondations. Il y en avait pour 4 ou 5 millions d'euros. C'était une somme qui nous a fait reculer. On a fait d'autres choses. C'était énorme. Il y a 5 ou 6 ans, la fibre à la maison, FFTH, c'était un prix de entre 25 et 30 millions d'euros. Les opérateurs privés, petit à petit, ont autofinancé, avec des locations, avec des fourreaux, ainsi de suite, une grande partie de la fibre qui, in fine, ne coûte pas le prix initial et qu'on n'aurait pas pu se payer. Là, ça, c'est allé dans le bon sens. En revanche, sur ce sujet, je peux vous dire qu'on a bagarré avec M. Cassard et Bernard, qui représentent vice-président de la commune de Mouguiot, parce que c'est vrai que la somme, c'est une somme très importante pour un service qui n'a jamais consommé ce même volume d'argent. Voilà. Donc on y sera très attentif, quelle que soit la gouvernance, il faudra le regarder. Voilà. Parce que là, c'est la théorie, sauf à dire que les sommes qui sont non consommées iront dans le budget général. Mais ça veut dire que c'est un impôt qui correspond à une prestation qui n'est pas faite. Donc ça, il faut le regarder. Voilà pourquoi le sujet est assez épineux. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, tu nous prends le point 11, s'il te plaît.
Alors, le point 11 comporte deux points. Le déclassement d'un lot concernant Prévert et l'aliénation de ce lot. Afin de conférer les conditions d'aliénabilité aux locaux à céder à la SPL au sein du lot Prévert, Monsieur le préfet avait donné le 19 octobre 2018 un avis favorable à la désaffectation de l'école. Et cette désaffectation avait d'ailleurs été officialisée par une délibération numéro 203 du 17 décembre 2018. Cependant, la partie de cet îlot qui doit être cédée à la SPL, n'étant plus affectée à un service public, elle ne fera donc plus partie du domaine public et il convient de procéder à son déclassement, comme le prévoit l'article 214-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Je précise que ce déclassement ne sera pas accompagné d'une enquête publique, car celle-ci n'est pas requise en matière d'immeubles bâtis ou de locaux. En effet, il faut que ça soit prévu par un texte, énuméré par un texte, et il n'y a que la voirie et le domaine maritime, le fluvial, pardon, qui est prévu pour une enquête publique. Ce déclassement concerne le volume numéro 2 de l'immeuble de Prévert, tel qu'il est défini dans l'état descriptif établi par le cabinet Bilicki, qui est joint en annexe. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'état descriptif de division en volume établi par la SCP Bilicki, d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents aux formalités de publicité foncière de l'état descriptif de division, et de prononcer le déclassement du domaine public du volume numéro 2, objet de la cession à titre onéreux à intervenir entre la commune de Moglio et la SPL.
Merci Bernard. Des commentaires?
Oui, bon, juste un commentaire, vous le savez. Moi, je trouve vraiment regrettable que cette partie du bâtiment soit vendue. Je pense que ça devait rester dans le domaine public, ça devait faire partie du besoin qu'on a pour les associations, pour la culture, pour la convivialité en plein centre-ville. Donc c'est un vrai regret que j'ai. Par contre, sur le point B, vous nous faites voter la vente. Donc c'est moi qui vous avais dit la dernière fois que vous deviez faire d'abord le déclassement avant de faire la vente. Mais là, le déclassement, ça ne vous suffira pas, parce que pour déclasser une école, il n'y a pas que le conseil municipal qui est souverain en la matière. Il vous faudra aussi d'abord les autorisations de la validation des services de l'État. Parce que pour déclasser une école, c'est une procédure un peu plus particulière que pour d'autres espaces du domaine public. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que le point B il est prêt, encore trop prématuré.
Je pense que vous faites une confusion entre la désaffectation.
Non, je ne confonds rien du tout. Non, je parle du déclassement. La désaffectation est déjà faite.
Je vous ai laissé
parler. Je parle du déclassement. Mais ne me dites pas que je confonds. Je parle du déclassement.
Je maintiens, je dis que je pense que vous confondez le déclassement et la désaffectation. L'avis du préfet est obligatoire pour la désaffectation et pas pour le déclassement.
Et pour le déclassement, l'avis du rectorat.
Ah, ce n'est pas l'avis du préfet.
J'ai dit les services de l'État, hein. Je n'ai pas dit du préfet. Je vous dis juste que le point B, voilà, c'est prématuré, mais c'est tout. De toute façon, je suis contre les deux.
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Donc, nous passons au point B. Cession partielle à titre onéreux de la parcelle cadastrée BZ numéro 264. Donc, c'est la suite logique du point précédent. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la cession à la SPL de ce volume 2 que nous venons de déclasser pour un prix de 735 000 euros. Ce prix est établi sur la valeur vénale de référence qui a été fixée par les domaines à 700 000 euros, plus ou moins 10%. De préciser que l'acte de vente définitif stipulera par condition particulière que l'affectation des biens et volumes cédés sera limité à un usage de bureaux et locaux administratifs, d'approuver la signature d'une promesse synalagmatique de vente déterminant les conditions précises de vente des biens immobiliers et qui sera réitérée par acte authentique de vente, d'approuver l'inscription des servitudes de passage utile à la SPL concernant l'accès aux locaux et équipements techniques liés au fonctionnement de ces locaux et à la conservation du réseau pluvial, de préciser que cette promesse synalagmatique de vente est consentie sous les conditions suspensives et particulières suivantes: la purge de tous les recours potentiels sur le permis de construire modificatif déposé, l'obtention par la SPL leur aménagement des emprunts correspondant à cette acquisition immobilière, la stipulation de pénalités versement par la partie défaillante de dommages et intérêts en cas de renonciation à l'exécution de la promesse, et enfin d'annuler et de replacer la précédente délibération numéro 180 du 16 décembre 2019 par la présente délibération, et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à cette procédure.
Merci Bernard. Voilà, vous n'êtes pas d'accord sur le point B. On vote maintenant pour le point B. Contre ? Abstention ? Merci. On passe maintenant au point 12, relatif à la modification du guide interne de la commande publique de la commune. En fait, la nouvelle loi dispose de nouveaux assouplissements en matière fiscale, c'est-à-dire que les seuils de passation, ils sont relevés de 25 000 euros à 40 000 euros. Voilà. On avait besoin de 3 devis en dessous de ces seuils et sur la base d'un cahier des charges, c'est-à-dire que ça donne un peu plus de souplesse pour éviter la multiplication des démarches. Je pense que là-dessus, on peut tomber d'accord. Contre, abstention, tout le monde est d'accord. Merci. Ensuite, attribution d'autorisation d'occupation d'une parcelle du domaine public portuaire, zone technique, canon ouest. Alors, oui, on a des amodiataires dont l'autorisation est arrivée à échéance, et le temps que le schéma directeur prenne en compte le remodelage de ces endroits, puisqu'ils occupent un local qui est au port au stockage à terre, donc on vous demande d'autoriser la commune à prolonger l'occupation, puisque aujourd'hui ces personnes seraient occupants sans droit ni titre, ce qui met en danger la responsabilité du maire, le conseiller municipal et la leur, ce qui n'est pas souhaitable. Donc je pense que là-dessus on peut tomber d'accord aussi. Contre, abstention, merci. Ensuite, on a le point 14. Autorisation d'occupation d'une parcelle domaine public portuaire sur la parcelle cadastrée 5 pour l'implantation d'une infrastructure hébergeant une antenne relais ATC annexe. Alors, le sujet. Aujourd'hui, nous avons une antenne qui est au niveau du stockage à terre, qui est nécessaire. C'est là où elle est positionnée. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'attendre les propositions des opérateurs pour implanter de nouvelles antennes. Et en sachant très bien que c'est une disposition temporaire, puisqu'aujourd'hui, personnellement, je suis incapable de vous dire à quel endroit cette antenne peut être mise en fonction des exigences techniques des nouveaux opérateurs. Dans le schéma directeur, en fait, on sursoit, comme on l'a fait pour la délibération précédente, on vote une disposition transitoire où l'idée c'est de mettre l'antenne à l'endroit le plus éloigné de toutes les formes d'habitation. Voilà. L'idée elle est là. C'est la consigne qui sera donnée aux opérateurs. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où elle sera. Voilà. Donc je vous invite à voter sur cette disposition, sur cette autorisation d'occupation. Contre ? Abstention ? Je vous remercie.
Et juste une petite question.
Oui.
L'antenne de Carnon Ouest, ça en est où le projet ?
Eh bien, c'est ça.
Ah, c'est celle-là ?
Non, mais vous voulez dire celle de la base ?
Non, celle qu'on devait implanter.
Celle de la base nautique, mais pour le moment, elle n'est pas implantée.
D'accord.
On attend que l'opérateur revienne vers nous.
D'accord.
Oui, Bernard ?
Oui.
Il n'y a rien de...
Non, il n'y a rien de...
Y a rien
pour
de...
l'instant, rien n'est fait. L'opérateur ne se manifeste toujours pas.
Constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture de locaux à Brivac. C'est le point 15. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif de collecte sur le port.
à l'exception des fourmis en papier. L'idée, c'est de faire l'acquisition de conteneurs de collecte pour que la communauté d'agglomération, ayant des bacs identiques à ceux qui sont disposés ailleurs, puisse effectuer cette collecte. Je pense que c'est une mutualisation souhaitable. Si vous êtes d'accord, je vous invite à voter pour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bernard, tu prends le point 16, s'il te plaît.
Alors, il s'agit de la convention d'organisation temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la dissimulation du réseau électrique boulevard Honoré-Étienne-Dorve. Conjointement aux travaux qui sont programmés de requalification du boulevard Étienne-Dorve, il est prévu de mettre, comme d'habitude, en souterrain le réseau électrique. Pour ce faire, conformément à la délibération du 31 janvier 2005 passée avec le syndicat Héro Énergie, il est nécessaire d'établir une convention d'organisation temporaire de maîtrise d'ouvrage avec ce syndicat. La commune prendra en charge le coût des travaux estimés à 19 200 euros TTC. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de définir les modalités de réalisation de dissimulation du réseau électrique entre le syndicat Héro Énergie et la commune, d'établir une convention d'organisation temporaire de maîtrise d'ouvrage au profit de la commune pour la réalisation des travaux d'enfouissement du réseau et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Merci Bernard. Bon, c'est clair. Contre ? Abstention ? Merci. Point 17, Laurent, c'est pour quoi ?
Point 17, on vous propose de renouveler notre convention avec le centre de gestion de l'Hérault pour une durée de 3 ans pour la médecine préventive. On passe au vote.
Contre ? Abstention ? Merci. Point 18, mise à jour des effectifs, de la cause du tableau des effectifs.
Oui, suite à la réussite d'un de nos agents à un concours de catégorie A, nous proposons de modifier le tableau des effectifs pour lui permettre d'accéder, et on lui permettra d'accéder à ce concours catégorie A.
Oui, on a deux points. Allez, on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Encore un, Laurent ?
Alors, recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc, vous avez le détail service par service, communication, ressources humaines, services techniques, informatiques, services...
Il y en a deux qui ne sont pas mentionnés dans la délibération. On a un besoin au service informatique.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
En fait, oui, mais elle était, vous ne l'avez pas, vous, peut-être, dans vos... Et là, on le rajoute. Toi, tu l'as ? Informatique et logistique événementielle.
C'est ça.
L'informatique, par exemple, il y a une dame qui part à la retraite et la personne n'est pas remplacée. Le renouvellement par rapport aux élections va générer un surcroît de travail. On aurait peut-être pu sursoir au recrutement gagner. On ne gagnerait du tout quand on ne met pas la personne là où il faut qu'on la mette. Donc on a rajouté la nécessité de recruter dès que la personne s'arrête. Voilà.
Donc ce sont des petites périodes, 3 mois, 6 mois.
Voilà.
Dès que l'accroissement temporaire est terminé, ça revient à l'identique.
On passe au vote. Contre, abstention. Tout le monde est d'accord, c'est bien. Point 20.
Point 20, comme chaque année, accroissement saisonnier d'activité. On vous propose de délibérer sur nos saisonniers. On a le détail en dessous, police municipale, service administratif, service technique, direction des sports éducation, pôle jeunesse et des solidarités, et bien sûr la surveillance de nos plages avec les saisonniers qui seront affectés à la SNSM pour surveiller nos plages. Rien de particulier, sinon qu'on a fait depuis quelques années un effort considérable de réduction de ces saisonniers, et là, cette année, c'est ISO par rapport à l'année dernière.
Très bien. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Point 21. Non, on y est. 22.
21. 21, on vient d'en parler de nos sauveteurs de la SNSM qui couvrent nos plages. Donc on les embauche à la délibération précédente en tant que saisonnier. Pour ce faire, nous versons, il faut qu'on fasse une convention, et dans cette convention, on verse, comme chaque année, 7 euros par sauveteur et par jour pour les former à l'école départementale de la SNSM située à Palavas. Donc rien de nouveau, c'est annuel.
Bien, merci Laurent. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. On passe au 7e art.
Madame Boulet.
Alors voyez, il s'agit-il d'un protocole d'accord pour la mise à disposition du théâtre Bassager à l'école de cinéma Travelling. Alors les étudiants de cette école nous ont sollicité la ville pour le prêt du théâtre Bassager afin de finaliser un projet film qui s'appelle No Way, un clip musical en collaboration avec une artiste, Natacha Bellet. Donc dans le cadre de notre politique culturelle et de soutien à la création, la ville se propose de mettre à disposition le théâtre Bassager, et ce de façon gracieuse, à ses étudiants. Voilà, je vous ai donc proposé d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer cette convention de mise à disposition à titre gratuit du théâtre Bassager à l'école de cinéma Travelling.
On précise que M. Mesguiche a le double d'étudiants cette année que ce qu'il avait il y a 2 ans. Donc c'est une école qui participe à la renommée des écoles de formation, c'est très bien. J'aimerais bien que les formations pour certains métiers connaissent le même engouement. Et, bon, il faut dire que c'est une école qui n'est pas trop subventionnée. Les études sont assez chères. Mais oui, je crois que c'est...
5 500 l'année.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais les étudiants sont particulièrement motivés. Et enfin, à partir du moment où on fait ce qu'on aime, on le fait mieux que quand on n'aime pas. Voilà, effectivement. Enfin, simplement pour dire que M. Mesguiche fait du bon travail et que c'est une bonne image de la commune. On passe au vote. Contre, abstention, tout le monde est d'accord, merci. Partenariat de colonisation entre la commune Lyon-Turin et Melgorienne, Laurent, Sionel.
Comme chaque année, la commune met en place un partenariat avec l'UTM concernant l'organisation de l'ouverture de la temporade qui aura lieu cette année les 27, 28 et 29 mars prochains. Ce partenariat se traduit à la fois par l'organisation des spectacles de rue, mais aussi de l'organisation de la course aux As, dans le cadre du trophée Taurin 3e. Une répartition est faite pour le financement de taureaux et du spectacle de la Capellade, à hauteur de 3 500 €. En contrepartie, la commune prend en charge les autres dépenses liées à la manifestation. L'UTM percevra une subvention de 3 500 € par Montpellier Méditerranée Métropole et elle pourra recevoir de 3e une subvention complémentaire de 4 500 € maximum selon l'évaluation de la course par le jury. L'UTM s'engage à reverser cette somme à la commune. Concernant les spectacles de rue, la commune prend en charge les parties logistiques et sécuritaires de ces animations. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer une convention de partenariat avec l'Union Taurine Melgorienne dans le cadre de la co-organisation de l'ouverture de la temporada.
Merci Laurent. Question ? Vous êtes d'accord ? Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Un partenariat avec l'école de musique ?
Alors on change d'univers, on passe sur l'école de musique. Alors on évoque ici un partenariat avec l'école de musique de Mouguio-Carnon pour l'organisation d'un festival de harpe. Alors un festival qui s'inscrit bien sûr dans la volonté de dynamiser tout ce qui est culturel sur la commune. Le 8 et 9 février, l'association propose une exposition-vente de harpe, des ateliers, des masterclass, un spectacle professionnel, un conte musical avec les élèves de harpe à l'école de musique. Alors dans un esprit de soutien à ces actions, la ville met à disposition bien sûr la salle Prévert et l'espace Bel Air, ainsi qu'un soutien technique avec du matériel, bien sûr, et la présence d'un régisseur. Il vous est donc proposé de autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer cette convention de partenariat avec l'école de musique.
Oui, alors vous allez nous dire qu'on s'y prend un peu tard, mais ce n'est pas une convention avec des finances.
Non.
C'est simplement la possibilité de faire utiliser les locaux par les associations, ce qui est le but de cet investissement. Je pense que tout le monde a reçu, qu'il n'y aura pas de fausse note pour le vote. Contre, qui s'abstient. Voilà.
Et on a une très belle classe de harpe.
Je vous remercie. Voilà. Très bien. Ariane, bourse au permis de conduire.
Allez, bourse au permis de conduire. Alors, bon, je ne vais pas vous refaire qu'on avait déjà changé les modalités techniques et financières, etc. Donc, en 2019, on a eu la séance d'attribution qui s'est réunie donc, le 10 janvier, le 27 septembre, le 28 octobre. Il y a eu des demandes de bourse déposées. À l'issue de ces séances, on a 5 candidatures qui ont été retenues pour l'attribution de 5 bourses d'un montant de 600 euros. Donc, vous avez les prénoms qui sont donnés. Vous pouvez remarquer effectivement, il y a chaque fois des auto-écoles de Moguio, du fait que Carnot n'a pas souhaité signer la convention avec nous. Il ne peut pas faire bénéficier donc les jeunes de Carnot sur place. Par contre, on a conventionné avec l'auto-école de la Comédie, parce que pour les jeunes de Carnot, il est plus facile d'aller sur la Comédie que venir à Moguio. Voilà. Donc oui, c'est comme ça, mais ils n'ont pas voulu, on a traité avec eux, mais ils n'ont pas souhaité, donc voilà, c'est à savoir. Mais dans tous les cas, les jeunes de Carnet ne sont pas de toute façon pénalisés, puisqu'ils ont quand même une solution intermédiaire.
Très bien.
Voilà, donc, et ben.
Ça fait 5 jeunes qu'on a aidés.
Ouais, là, ça fait 5 jeunes qu'on a aidés, et ils doivent faire, donc, déjà, ils doivent passer leur permis, etc., doivent faire les heures d'activité d'intérêt collectif, et une fois que c'est calé, on paye directement l'auto-école, enfin, on paye à hauteur de 600 euros d'auto-école, sachant que ce sont des contrats à 1200 euros, et qu'ils ont l'autre moitié.
Merci, Ariane. C'est tout l'esprit qui préside à ce qu'on appelle les contrats d'engagement réciproque quand on aide pour l'insertion des travailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des droits et des devoirs, hein, vous le savez. Et moi, je trouve que c'est, en termes de symbolique, ça, c'est magnifique. Parce qu'on ne donne pas, il n'y a rien qui est dû. Mais là, le jeune, il participe, justement, il est méritant. Et d'un point de vue solidarité, c'est très bien. D'un point de vue acceptabilité par les autres personnes, le fait que le conseil municipal vote une participation à quelqu'un qui fait l'effort, lui aussi, d'être collaborateur du service public, moi je trouve que c'est bien.
Tout à fait. Ça a été.
C'est une belle.
Ça a été le fil conducteur de ce mandat. Ouais, c'est ça.
Merci. On est.
Eh bien, il faut le voter.
Je ne sais même pas si on va appeler à poser la question. Allez.
Et la suite,
on va faire une photo. Qui est pour? On va la faire à la mer. Voilà. C'est maintenant qu'il faudrait prendre la photo. Allez. Et mettre le titre.
Allez. Et la dernière, je boucle la boucle et je boucle ma boucle. Donc, bourse au projet méritoire. Donc, pareil. La bourse au projet méritoire, dans le même état d'esprit. Donc là, on a pu donc soutenir un jeune qui depuis l'obtention de son diplôme, travaille en tant que vacataire lors des vacances sportives, mais qui a un projet personnel tout autour de l'e-sport. Donc il a pu être avec nous sur le Mail Game. Il a fait largement ses preuves, donc c'est Marc Laroche-Joubert qui s'investit donc dans la préparation du Mail Game et qui a fait des heures et de gestion des jeunes, etc. Ça s'est super bien passé. Il a mis en place le concours Fortnite. Je sais que Patty, tu as dit que pendant la fête collaborative, c'est un jeune qui s'est énormément investi. Donc, on propose cette bourse au projet méritoire qui permet de donner un coup de pouce aux talents et puis qui surtout permet aux jeunes de leur dire que oui, qu'ils ont du potentiel, ils peuvent aller de l'avant. Voilà.
C'est bien. C'est un beau final. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il nous reste un petit point que je vais demander à Bernard de présenter. Monsieur Cassard.
Oui, je suis très honoré d'avoir commenté le dernier point du dernier conseil municipal de cette mandature. Donc il s'agit de la dénomination d'une voie. Je pense qu'elle fera l'unanimité, j'espère. Il s'agit d'un chemin qui a été, le chemin départemental, 189E1, qui a été coupé en deux par la construction de la ligne LGV. L'ancienne portion de ce chemin qui dessert les mas Sandy, le mas d'Aï, le mas de Pichot, le mas Saioli, la villa Benquilado et le mas des Quatre Vents n'a plus de nom. Donc il est donc proposé aux membres du conseil municipal, vu l'énumération des mas, de dénommer ce chemin « chemin des maraîchers ».
Tradition, horticole, Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est sur cette belle unanimité que se clôture ce dernier conseil. Je tiens à remercier, en tant que maire de ce conseil municipal, tous les acteurs autour de cette table pour leur participation à toutes les séances qui s'y sont tenues, avec des débats animés, des débats confrontants. Nous sommes restés dans une tradition républicaine d'échange, de respect. Je vous en remercie. Je remercie ceux qui s'en vont, ceux qui s'arrêtent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils ont donné, pour ceux que je connais, le meilleur d'eux-mêmes pour cette mandature. Je les en remercie. Ils ont droit à d'autres activités bien méritées, pas forcément du repos, puisque j'espère que les uns et les autres avaient des projets. Et puis, quant à ceux qui restent, écoutez, j'espère, je ne veux pas plus loin, je pèse mes mots, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais j'espère vous retrouver lors du prochain conseil municipal. Bonne campagne à tout le monde et bonne soirée à tous.